à Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 avril 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal. Débat demain vendredi au Parlement nigérien sur la présence des forces étrangères. Quatre enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba mis en examen par la justice française dans le dossier des biens mal acquis. Présidentielle française, au lendemain du débat entre les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen, chaque camp défend son candidat. Ukraine, le président russe Vladimir Poutine annonce la prise de Mariupol, mais reconnaît une poche de résistance. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. En Guinée, deux anciens ministres ont été écroués et un autre placé sous contrôle judiciaire ce jeudi à Conakry, notamment pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. L'ex-ministre de la Sécurité sous Alpha Condé, Albert Damantan Camara, et l'ex-ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ibrahima Kourouma, ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et financières d'après leur avocat, Amara Bangoura. Un autre ancien ministre de l'économie sous M. Condé, Mamadi Camara, a lui été placé sous contrôle judiciaire par la CRIEF. Les trois ex-responsables ont été interrogés hier et aujourd'hui par la chambre d'instruction de la CRIEF créée par les militaires qui ont renversé le président Condé. Au Niger, les députés doivent débattre et voter demain sur la présence de forces étrangères pour combattre les djihadistes dans le pays. Des ONG locales considèrent ces bases militaires comme des forces d'occupation. Nathalie Barge.
Le document soumis aux députés souligne que le Niger est quasiment encerclé par les groupes terroristes et que l'évolution de la situation sécuritaire requiert un engagement de plusieurs pays dans le cadre de coopérations existantes ou futures. Le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a estimé que le Niger a besoin d'un accroissement de l'intervention de ses partenaires, car il faut s'attendre à une plus grande pression des terroristes dans le pays après le départ des forces françaises du Mali voisin. Dans un communiqué, les partis d'opposition ont estimé que la démarche du gouvernement vise à contourner l'obligation de communiquer aux députés les textes relatifs aux accords de défense. Des ONG nigériennes dénoncent la présence de militaires étrangers comme des forces d'occupation et une menace pour la souveraineté du pays. Mais le parti au pouvoir du président Mohamed Bazoum dispose d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, ce qui laisse peu de doute sur l'issue du vote demain.
Au Nigeria voisin, au moins 17 personnes ont été tuées ces deux derniers jours dans des attaques revendiquées par des djihadistes. Des miliciens ont déclaré qu'au moins 11 personnes ont été tuées mercredi dans deux attaques distinctes, dans un bar et dans un lycée, par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord-est du pays. Mercredi, l'histoire a revendiqué une autre attaque survenue mardi qui a fait 6 morts dans un bar de l'est du pays en dehors de leur zone traditionnelle d'opération dans le nord-est. Quatre enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba ont été mis en examen par la justice française dans le dossier des biens mal acquis gabonais dans l'Hexagone. L'avocate d'une des filles de Bongo qualifie sa mise en examen de scandaleuse. Le point avec Abdou Ramandia.
Le juge financier Dominique Blanc a successivement mis en examen Grace, Betty, Arthur et Hermine Bongo pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux. C'était entre le 25 mars et le 5 avril selon l'AFP. La justice française soupçonne plusieurs membres de la famille d'Omar Bongo, le défunt père Ali, fils et actuel président, d'avoir sciemment bénéficié d'un important patrimoine immobilier frauduleusement acquis par le patriarche. La valeur de ces biens a récemment été évaluée par la justice à au moins 85 millions d'euros. Les quatre ont tous contesté devant le juge avoir conscience de cette origine frauduleuse. L'avocate de Grace Bongo, maître Élise Arfi, a réagi, estimant que sa mise en examen était une décision scandaleuse et politique. On ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, a assuré l'avocate.
Le système de santé du Sénégal était touché jeudi par des grèves controversées lancées pour protester notamment contre les poursuites judiciaires visant six sages-femmes après le décès d'une femme enceinte qui a ému le pays. Six sages-femmes doivent donc être jugées le 27 avril devant le tribunal de Louga pour non-assistance à personne en danger après la mort le 1er avril d'Astou Sokna, enceinte de 9 mois dans l'hôpital public de cette ville du nord du pays. Une manifestation pour réclamer justice pour Astou est prévue samedi à Dakar. Plus d'un million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont désormais reçu, grâce à un programme pilote, au moins une dose du premier vaccin antipaludique. C'est félicité aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccinations contre le paludisme, lancées pour la première fois en avril 2019 au Malawi, suivies du Kenya et du Ghana, ont démontré que le vaccin RTS,S était sûr et réduisait de manière substantielle les cas graves de la maladie, assure l'OMS dans un communiqué diffusé avant la journée mondiale de la lutte contre le paludisme qui aura lieu le 25 avril.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, critiqué pour sa neutralité depuis le début de la guerre en Ukraine, a déclaré aujourd'hui s'être entretenu au téléphone avec son homologue à Kiev, Volodymyr Zelensky. Monsieur Ramaphosa a déclaré sur Twitter que les deux chefs d'État ont discuté du coût humain tragique et des ramifications mondiales du conflit après l'invasion russe lancée il y a 2 mois. L'Afrique du Sud, puissance diplomatique sur le continent, a maintenu une position non alignée malgré la condamnation de la communauté internationale concernant ce conflit et préconisant la négociation. Concernant la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine annonce la prise de Mariupol, mais reconnaît une poche de résistance retranchée dans un grand complexe industriel de ce port stratégique. Kiev appelle à la mise en place d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils. Rosine Monezero.
Le président russe Vladimir Poutine a jugé aujourd'hui que ses forces ont presque pris le contrôle de Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov, ordonnant d'assiéger les derniers combattants plutôt que de donner l'assaut sur le site industriel d'Azovstal, où ils sont retranchés. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé jeudi à l'instauration d'un couloir humanitaire d'urgence pour évacuer les civils du complexe industriel qui est aussi le dernier îlot de résistance du port de Mariupol, assiégé par les forces russes. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a envoyé mardi des lettres aux dirigeants russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, leur demandant d'être reçus à Moscou et Kiev, a annoncé hier son porte-parole Stéphane Dujarric. Le pape François s'est associé à l'appel lancé par le patron de l'ONU pour demander une trêve le 24 avril, date de Pâques chez les catholiques orthodoxes. Le pape François a reçu jeudi pour la première fois au Vatican le premier ministre hongrois Viktor Orban et lui a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil des réfugiés. Washington entend apporter une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine selon un responsable du Trésor.
Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui une nouvelle enveloppe militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, qui aidera selon lui Kiev à combattre l'offensive russe dans le Donbass afin de continuer à fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Joe Biden a indiqué qu'il allait demander des fonds supplémentaires au Congrès américain. Et l'Espagne a envoyé quelques 200 tonnes de munitions et d'équipements militaires à l'Ukraine, ce qui fait plus que doubler le volume d'aide militaire livré jusqu'à présent par Madrid, a déclaré jeudi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Au lendemain du débat entre les deux tours de la présidentielle en France, chaque camp défend son candidat. Les entourages d'Emmanuel Macron dénoncent des hésitations de la candidate du Rassemblement national. Les proches de Marine Le Pen fustigent l'arrogance du président sortant, Éric Manirakiza.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés hier soir sur le pouvoir d'achat et l'islamisme, chevaux de bataille de la candidate d'extrême droite et les enjeux diplomatiques du moment, dont le conflit ukrainien et l'avenir de l'Union européenne. Les deux camps s'accordent sur le fait qu'ils ont exprimé leur profond désaccord pendant près de 3 heures de débat très agressif. Chacun se dit satisfait, mais le débat a laissé sur leur faim de nombreux observateurs. Troisième du premier tour, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est dit sur Twitter navré d'avoir fait moins d'un tel gâchis. Selon les chiffres diffusés par Médiamétrie, Le débat a rassemblé 15,5 millions de personnes sur l'ensemble des canaux de diffusion. 59% des Français ont trouvé M. Macron le plus convaincant, selon un sondage ELAB pour BFM TV réalisé à la fin du débat. Les deux candidats ont retrouvé aujourd'hui le terrain pour les 48 dernières heures de campagne. Ils ont choisi des déplacements dans des régions populaires en réponse à la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat.
Au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce jeudi dans un attentat du groupe État islamique contre une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan, 2 jours après une attaque contre une école. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
Le gouvernement de Kinshasa veut promouvoir l'utilisation de la farine de manioc, la fabrication du pain et la pâtisserie. Cette démarche permettra désormais de mélanger à hauteur de 20% la farine de manioc à la farine de blé pour faire du pain, des pizzas, gâteaux et gaufres. Ce projet bénéficie d'un accompagnement de 38 millions de dollars de la BAD, la Banque africaine de développement. La stratégie vise à alléger la facture liée aux importations de blé qui s'élève en moyenne chaque année à 87 millions de dollars. La RDC dépend à près de 70% de la Russie et de l'Ukraine pour son approvisionnement. Amazon augmente ses capacités d'énergie renouvelable de 30% avec 37 nouveaux projets dans le monde. Le groupe va compter 134 sites d'éoliennes, de panneaux solaires et 176 toitures photovoltaïques. Des ministres des Finances et des banquiers du G20 réunis hier mercredi en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale ont quitté la séance plénière pour protester contre la présence de la Russie. À défaut d'obtenir l'exclusion de Moscou, des ministres dont la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ont décidé de boycotter les sessions où les responsables russes devaient prendre la parole.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. L'ancien international guinéen Kaba Diawara a été confirmé au poste de sélectionneur de la Guinée, annoncent les responsables du football du pays. Kaba Diawara a été choisi parmi 4 candidats et jugé plus à même de conduire l'équipe nationale vers les performances attendues, déclare Sega Diallo, vice-président du comité de normalisation qui gère les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football. L'ex-joueur de Bordeaux, du Paris Saint-Germain et d'Arsenal notamment, avait été désigné sélectionneur intérimaire du Sélection nationale à 3 mois de la CAN organisée au Cameroun. Il succède ainsi au Français Didier Six, qui était en poste depuis 2019. En Angleterre, le Néerlandais Erik ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax Amsterdam, sera l'entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine. L'annonce est faite par le club anglais qui précise que le coach de 52 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec une saison supplémentaire en option, 2 fois champion avec l'Ajax, qui l'a amené en demi-finale de Ligue des Champions en 2019. Ten Hag est connu pour son sens du détail et sa capacité à faire basculer les matchs par des changements tactiques. Il est aussi réputé pour son grand calme et son caractère protecteur envers ses joueurs. Après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, fin novembre, Manchester United a nommé Ralf Rangnick pour la fin de la saison. L'Allemand va ensuite prendre un poste de conseiller auprès du club. Ici, en NBA, le premier tour des playoffs se poursuit. Brooklyn s'est à nouveau incliné sur le parquet de Boston, 114-107 pour le 2e match de leur série. Les Nets devront se rattraper chez eux samedi lors du match numéro 3. Le champion en titre Milwaukee a été surpris à domicile par Chicago, 114-110. Les Bulls égalisent ainsi à 1 victoire partout dans la série. Le grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo a été omniprésent, 33 points, 18 rebonds et 9 passes décisives. Milwaukee se déplace au United Center de Chicago ce soir pour le match numéro 3. Philadelphie s'est imposée sur le parquet de Toronto 104-101, sa 3e victoire d'affilée dans cette série du premier tour des playoffs. Le Camerounais Joel Embiid a encore été excellent avec 33 points et 13 rebonds. Tennis, Wimbledon a exclu les joueurs russes et bélarusses de l'édition 2022 du majeur sur gazon en raison de la guerre en Ukraine. Wimbledon devient ainsi le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ses joueurs. Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, Andriy Rublev, Arina Sabalenka et Anastasia Palkenkova et Victoria Azarenka ne pourront donc pas défendre leur chance à Londres. L'ATP, l'association des professionnels du tennis, a apporté son soutien aux joueurs russes et bélarusses qui pourront continuer de participer au tournoi de l'ATP sous drapeau neutre.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'est adressé aux membres du Conseil national de transition pour donner des explications sur la mise en œuvre de son plan d'action gouvernemental. Il a indiqué que 30% du plan a déjà été mis en œuvre. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Les membres des différentes commissions se sont succédés au pupitre pour interpeller, féliciter et surtout poser de nombreuses questions sur l'état de mise en œuvre du plan d'action gouvernemental qui, selon la note introductive, n'a été réalisé qu'à hauteur de 33%. Maître Mokhtar Namakoro Diallo, porte-parole de la commission loi.
Nous pensons que le problème avec la CEDEAO ne doit pas occulter en aucune manière l'avancée dans le processus électoral, l'avancée dans la programmation. Dans le programme. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau ça se trouve. Et en tant que juge, je peux dire que le PAG qu'il a décliné en son temps n'est plus d'actualité.
L'exécution des recommandations des Assises nationales de la Refondation, du processus de transition et le programme détaillé et les échanges avec la CEDEAO en vue d'élever les sanctions ont été abordés. Adama Diarra, membre du CNT.
J'ai demandé au Premier ministre, il ne pense pas qu'il est temps de quitter dans ces dialogues de sourds avec la CEDEAO pour que le pays quand même puisse avoir un élan, redémarrer, mener les activités comme ça se doit.
Sur 62 actions prévues par le plan, 21 ont été réalisées, 22 en cours de réalisation et 8 n'ont pas été réalisées selon la note introductive du CNT. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre.
Au lendemain de l'installation de ce gouvernement, au lendemain, il a été nommé le 7 juin, le premier conseil des ministres, c'est le 11 juin 2021. Et nous avons pris l'engagement de nous présenter devant vous dans 6 semaines. Mais entre-temps, la donne a changé complètement sur le plan géopolitique.
Selon le Premier ministre, sur la base d'une prolongation de 24 mois de la transition, son gouvernement a déjà commencé à travailler et compte mettre en œuvre les réformes par rapport aux élections dans les 8 mois à venir. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Direction la Côte d'Ivoire pour les réactions des populations après la formation du nouveau gouvernement resserré qui comprend 32 ministres contre 41 dans le précédent. À Abidjan, retrouvons notre correspondante Delphine Boïse.
Après la nomination du vice-président, la reconduction du premier ministre, les choses se sont accélérées avec la formation du nouveau gouvernement. Stéphane Lebo, juriste de formation.
On constate que la plupart des grands ministres ont été reconduits. Kandia Camara, à l'affaire étrangère, Doumani, à l'agriculture, la ministre Marie Toukoné, à l'éducation. On note que c'est un gouvernement restreint et moins budgétivore. Et je suis convaincu que ce gouvernement-là saura relever la défi.
Pour cet agent immobilier, c'est un simple jeu de chaises musicales.
Joseph Abois, quand on veut renouveler le gouvernement, c'est pratiquement toute l'équipe. Il faut amener des autres personnes aussi à se faire valoir et à monter ce qu'ils savent faire. On remarque que ce sont les mêmes personnes encore qui reviennent. Donc, ce n'est pas un remaniement ministériel, c'est juste un ajout ministériel.
Sur la parité homme-femme, voici ce qu'en pense un militant féministe.
Je trouve qu'avec 7 femmes ministres, d'ici un peu de temps, peut-être pourquoi pas atteindre 10 femmes ministres, pourquoi pas. Sinon, il y a des femmes qui sont baillantes, qui peuvent quand même bien travailler. C'est un peu, on verra.
Le président a fait appel à ceux à qui il a confiance pour cette dame ivoirienne.
Je m'appelle Boabri Julienne, épouse Gaillé. Je considère que si le président a décidé de travailler avec ces personnes, c'est parce qu'il pense qu'elles sont capables d'assumer leurs tâches. Seulement qu'on aurait pu aussi m'appeler pour occuper le poste de ministre que j'ai désigné, celui du ministère de la femme et de la famille.
besoin de ministres pour faire le travail. Ziya Koulibaly salue cet effort.
D'abord pour le nombre, je pense qu'il a fait un effort pour pouvoir réduire le nombre des ministres. Concernant le budget même alloué à ces ministres-là, dans le temps, c'est déjà trop. Du coup, réduit, je pense que ça va permettre au moins à l'État même de pouvoir souffler un peu. Et il pense que la population pourra en bénéficier, c'est-à-dire on pourra créer des infrastructures.
Comme les temps sont durs pour tout le monde, il fallait resserrer davantage la ceinture d'après Kwame Eliassi.
On peut encore diminuer même parce que pour ces petits pays, 32 même c'est déjà beaucoup. Parce que quand je regarde même les pays développés, attends, ils n'ont pas 32 ministres, c'est pas possible. Mais nous-mêmes qui sommes d'un pays pauvre, on n'arrive pas à s'en sortir. 32 ministres, c'est pourquoi? Je pense que c'est pour dire merci aux personnes qui l'ont soutenu. Donc, 32 mètres, c'est encore beaucoup. Si c'était 15 mètres, c'est encore mieux.
Comme il faut se mettre vite au travail, le tout premier conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 21 avril et les Ivoiriens vont juger au résultat. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
En France, le président sortant Emmanuel Macron et son adversaire Marine Le Pen se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Pendant près de 3 heures, les deux candidats au second tour de la présidentielle française ont tenté de convaincre les indécis dont le choix pourrait être déterminant dimanche. Nathalie Barge a joint Louis Maillot, journaliste en France.
Le fait que ce soit la suite du débat qui avait déjà eu en 2017 a probablement pesé sur la prestation des deux candidats. Ils agissaient non pas seulement par rapport au fait qu'ils devaient satisfaire les attentes des Français, mais surtout par rapport à la manière dont le précédent débat avait été mené. Et donc, de ce point de vue, il y avait énormément de précautions qui avaient été prises. Et puis, il y avait aussi cette envie pour chacun des deux candidats d'aller chercher non seulement les abstentionnistes, mais de mobiliser au maximum au sein de leur camp. Et donc, je crois que cela a mené à un débat beaucoup moins intéressant que ce que l'on a eu jusqu'à présent en termes de thématique, en termes d'approfondissement. Et c'est ce qui est probablement dommage, c'est qu'on a gagné probablement en qualité, dans le respect les uns des autres, mais on a énormément perdu en contenu, notamment en matière de politique internationale, en direction de l'Afrique, concernant les relations de la France avec la Russie et l'Ukraine. Ils ont énormément mis l'accent sur la forme, mais le fond a été le grand perdant de ce débat.
Est-ce que, selon vous, cela pourrait changer toutefois les lignes, hein, notamment au niveau des indécis, au niveau des abstentionnistes, et sachant que ces deux candidats doivent récupérer les voix de la gauche, hein, en particulier de Jean-Luc Mélenchon?
Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Les abstentionnistes seront confortés dans la position qui est la leur, parce que non seulement Emmanuel Macron, c'est un vote de rejet, ce second tour, contre Marine Le Pen. Certains vont rejeter Macron par rapport à la politique qu'il a menée pendant les 5 dernières années. D'autres rejetteront Marine Le Pen par rapport au fait qu'elle appartient, elle est la fille de son père et elle est l'héritière du parti de son père. Vu qu'ils sont considérés comme un parti d'extrême droite, le Front républicain fonctionnera probablement pour éviter que le Front National et le Rassemblement National actuel, qui est l'héritier du Front National, arrive au pouvoir en France. Donc ce sera très clairement un vote de rejet. Après, est-ce que ce qui a été dit pendant le débat peut motiver les électeurs de Mélenchon ou bien les électeurs de Yannick Jadot, les électeurs du Parti Socialiste, à venir voter et faire barrage à l'un ou à l'autre des candidats? Ça, c'est beaucoup moins sûr, parce que les électeurs de Mélenchon, par exemple, on a une grande partie d'entre eux qui appartiennent au mouvement des Gilets jaunes, donc ils ne voteront que très minoritairement pour le président Macron, et les autres auront beaucoup de mal à voter pour Marine Le Pen, parce que c'est pas parce qu'ils rejettent Emmanuel Macron qu'ils jetteront leur dévolu sur la candidate du parti d'extrême droite.
Louis Kemayou est journaliste en France. La police et les pompiers de la région de Washington DC ont lancé une initiative d'aide à l'Ukraine. De nombreux volontaires de la région ont envoyé du matériel à ce pays envahi par la Russie. Reportage Anna Kotsouchenko, récit Yakuba Ouedraogo.
Les services pompiers et de la police du comté d'Arlington en Virginie, non loin de Washington, collectent de l'aide pour soutenir l'Ukraine. Ils ont préparé une trentaine de palettes. Nate Hainer est du service des sapeurs-pompiers du comté d'Arlington.
Des ensembles complets de lutte contre les incendies, des manteaux, vestes, pantalons, des bottes et des appareils respiratoires qui fourniront aux pompiers ukrainiens de l'air frais dans leurs opérations de lutte contre les incendies.
En plus de ces nombreux objets, il y a des gilets pare-balles et des fournitures médicales. L'aide est collectée par l'organisation caritative United Help Ukraine et elle est transportée en Ukraine. Une fois les palettes envoyées en Ukraine, elles sont dirigées vers l'ouest du pays. Et Jenia Soroka est membre de l'association United Help Ukraine.
Parmi les villes qui ont déjà reçu une aide figurent Tcherniv, Koslet, Kiev, Vyshhorod. Le volume augmente et nous travaillons du matin au soir pour aider diverses associations caritatives, réfugiés, institutions médicales, hôpitaux et défense du territoire.
La fondation a été mise en place dans la région de DC en 2014 par des Ukrainiens américains pour aider la région occupée de Donetsk. Désormais, elle soutient Kharkiv, Odessa, Mykolaïv et de nombreuses autres villes et villages ukrainiens. United Help Ukraine a distribué 7500 trousses de premiers soins à travers l'Ukraine et travaille à en livrer 20 000 autres. En outre, les volontaires collectent et distribuent des médicaments, du matériel médical, des vêtements, de la nourriture, des équipements de protection individuelle et des produits d'hygiène. Oleksandra Sidleska est une volontaire.
Nous sommes en train de charger des sacs mortuaires pour les cadavres. Ceux-ci sont de grande taille et les plus petits sont malheureusement pour les enfants. Ils iront à Vordzel, Gostomel, Boutcha, des villes près de Kiev.
En Ukraine, des volontaires comme Lyudmila Chadorina distribuent les articles. Elle est originaire de la région de Donetsk. Elle a quitté sa maison après le début de la guerre.
Tout le monde doit s'unir. L'Ukraine est une. Quand nous sommes tous ensemble, nous pouvons tous investir dans notre victoire commune. Je crois que l'Ukraine va gagner.
Maxime Poudoun, résident de Boryspil, est originaire de Mykolaïv, ville du sud sous attaque russe constante. Après avoir évacué vers l'ouest, il s'est inscrit auprès du bureau d'enrôlement militaire local à l'entrepôt. Il aide dans les tâches administratives.
Nous voyons le résultat venir et cela nous donne une forte conviction que nous allons gagner. Nos défenseurs en première ligne sont expérimentés et confiants. Ils sourient et cela nous donne de l'espoir. Nous allons certainement gagner.
United Help Ukraine a aussi acheté et livré des ambulances, des camions de pompiers et des dizaines de milliers de tourniquets à l'Ukraine. Grâce aux dons d'Américains ordinaires et d'entreprises, ce groupe a fourni à l'Ukraine plus de 7 millions de dollars d'aide.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Afrique, les infos.